Une grève surprise, bravo. 30 tonnes de barbac sur le carreau alors qu'on meurt de faim à Chandernagore.
Tu vois.
Enlève la capuche. Enlève la capuche, il baisse les chars.
Depuis 81, le social a tué l'économie.
Parmi les revendications, augmentation des salaires, abolition des ordonnances sur la sécurité sociale et création d'un comité de co-gestion.
Moi je sais pas ce que c'est que la lutte des classes.
Oh, ça me fait bien marrer.
Moi je sais pas ce que c'est que la lutte des classes, mais je sais certainement mieux que toi, va. Ta gueule.
Vous êtes bien sûr Offensive Sonore jusqu'à 22h30. Ce soir, on vous passe une émission enregistrée samedi dernier sur la naissance du rock en Union soviétique. Un entretien avec Anna Zaitseva. Anna Zaitseva est une sociologue qui a fait une thèse à l'école des hautes études de sciences sociales à Paris, qui était intitulée « Enquête d'altérité pour une sociologie des acteurs, lieux et pratiques de la scène rock à Leningrad ». Saint-Pétersbourg dans les années 1970 jusqu'à 2000. Nous l'avions rencontré il y a quelques mois pour une conférence sur ce même thème organisée par Acer Russie. Acer Russie qui est une association religieuse mais aussi une association surtout d'aide humanitaire et sociale en soutien des initiatives locales d'aide aux plus démunis en Russie. Voilà, on commence avec cette entrevue dans quelques instants.
Мир устал, уснул в ленивой дуре. Я молюсь, чтоб капля ветра не послали небеса.
Quelle était l'idée principale pour présenter le rock soviétique?
Pour moi, l'idée principale consistait à un petit peu essayer de s'éloigner des clichés trop prégnants, en fait, dont un consiste à considérer la culture soviétique comme uniformément conformiste et en disant qu'il ne pouvait pas exister de véritable rock au sein de cette culture. Et l'autre, c'est simplement, qui est surtout prégnant à partir des années 80, quand on a découvert le rock avec les perestroïkas, de voir dans le rock la pure expression en fait, de sens politique, contestataire, en disant que le rock a probablement contribué à la chute du régime soviétique. Donc ni l'un ni l'autre en fait, ne me satisfait point. Et moi, j'ai essayé de, à travers cette présentation avec Acer Russie, mais aussi aujourd'hui, j'essaierai de voir le rock comme un genre musical, parce que paradoxalement, on oublie aussi que c'est la musique qui est une musique amplifiée, qui impose donc des contraintes techniques aux musiciens, au niveau des instruments, de lutherie, d'amplification, et d'organisation de concerts, donc qui est lourde. Voilà, et donc. Et sachant qu'en URSS, les instruments amplifiés n'étaient pas disponibles en vente. Voilà, qu'est-ce que ça implique au niveau de l'être musicien rock en URSS, mais aussi considérer le rock comme la musique, comme un genre en fait international, dominé par certains repères anglo-saxons au niveau mondial, et au sein duquel ils se produisent une série de ruptures esthétiques en passant d'une génération à l'autre. Une rupture est de ralliement. En fait, on choisit, chaque génération successive ne choisit pas les mêmes repères et les mêmes ralliements. Et donc le rock le rock soviétique va être guidé aussi par ces mêmes repères, mais à sa façon, en fait. Et donc c'est entre, d'une part, le message du rock et ses ruptures et ralliements esthétiques et les contraintes techniques qu'il faut vraiment voir cette histoire complexe.
Voilà. Et donc, pour illustrer ce propos, peut-être présenter le premier morceau de musique.
Voilà, les premiers morceaux qu'on va vous faire écouter, justement, ça nous met bien dans, l'ambiance de la fin des années 60, en 1969. Donc, ce morceau a été, qui est d'origine en fait brésilienne. En fait, en Europe, il a été chanté par le chanteur de variété italien Gianni Morandi, très populaire aussi en URSS. Et après, en 69, il a été traduit vers le russe et joué par le groupe Les Guitares Chantantes. Et il fait partie du film concert consacré au groupe qui a été tout à fait officiellement diffusé à la télévision de Leningrad en 69.
Был один парень, и он, как я, любил и Beatles, и Rolling Stones. Бродя с гитарой, пел песни их, приехав к нам из Америки. Нетрудно было его понять, тех песен смысл угадать. Пел он и Help, и Ticket to Ride, и Lady Jane, и Yesterday. Он ненавидел войну и смерть, все говорили, вот молодец. Вдруг передали письмо ему, срочно вернись ты в Америку. Стоп для Rolling Stones, стоп для Beatles, стоп. Ты должен ехать во Вьетнам, стрелять там вояком. Был один парень, и он, как я, любил и Beatles, и Rolling Stones. Об этих песнях только мечтал, когда Вьетнам в огне пылал. Сменил прическу, ратный шлем, гитару, новый инструмент. Хотел он крикнуть «Долой войну!», но слышно было. Как песня смерти раздался крик, и кровь и мрак смешались вмиг. Конец надеждам, конец мечтам, но нет конца моим стихам. Стоп для Rolling Stones, стоп для Beatles, стоп, и стоп для жизни молодой. Не плачь, гитара, пой.
Après, il faut dire de quoi il s'agit dans les paroles. Donc, il s'agit d'un gars qui, tout comme moi, il adorait Beatles et Rolling Stones. Il se baladait avec sa guitare et chantait leurs chansons. Et il est venu nous voir de l'Amérique. Et voilà, il chantait Help, Ticket to Ride, The Lady Jane and Yesterday. Et il détestait la guerre et la mort. Mais un jour, donc, il reçoit la lettre des États-Unis qui exige qu'il rentre en fait, afin d'être envoyé sur le front du Vietnam. Et à la fin, au deuxième couplet, on apprend en fait, sa mort sur le front au Vietnam. Voilà. Et donc cet extrait, je l'ai choisi pour introduire mon propos parce qu'il montre plusieurs aspects en fait, cruciaux de la condition du rock en URSS. Donc premièrement, on voit bien le mémétisme en fait, qui était fondamental originellement pour les groupes rock soviétiques de la première période, ce qui n'est pas original d'ailleurs. On voit bien que à la même époque, il y avait des Johnny Hallyday en France, et donc qui étaient aussi largement mimétiques vis-à-vis des repères anglo-saxons. Mais donc du coup, on peut voir l'histoire du rock soviétique et russe comme une dynamique d'émancipation de ses origines au départ très visible. Par la suite, on va voir de plus en plus de prises de distance, mais néanmoins, la découverte de Beatles était un véritable déclic inaugural et leur trace reste indélébile. Et aucun autre groupe n'a eu d'influence aussi grande sur le rock du cru et n'a suscité autant de reprises et de vénération aussi quasi religieuse que Beatles. Voilà. Et donc l'histoire du rock soviétique peut être vue comme celle d'une recherche de sa propre voix spécifique via une série de ruptures et de reliements esthétiques à la fois nationaux et transnationaux. Voilà. Deuxièmement, ce qui est intéressant avec ce morceau de guitare chantante, c'est qu'il mentionne explicitement le nom de Beatles et de Rolling Stones. Donc ça nous permet en fait de briser le cliché des autorités soviétiques soi-disant toujours répressives et en guerre contre le rock. Bien sûr, le rock comme le jazz avant lui risquait d'être classé comme une manifestation d'une servilité envers l'Occident, une culture bourgeoise décadente, etc., selon les formules de l'époque. Mais cela dépendait largement des époques, en fait, et des micro-périodes au sein des époques. Ainsi, à partir des années du dégel, les politiques culturelles soviétiques favorisaient aussi une ouverture internationaliste envers le monde et un certain progressisme.
Pour préciser, le dégel, c'est la mort de Staline. Un peu après la mort de Staline, c'est Khrouchtchev. Et
ça commence en gros avec le 20e congrès du parti
avec pas mal
en 1956.
Avec une relative bonne période par rapport à la répression qui s'est arrêtée avec Brejnev peu après en fait. C'était assez court cette période-là.
Voilà, et en fait, l'arrivée de Khrouchtchev au poste du premier secrétaire du parti correspond aussi, en gros, avec le début de la légitimation du jazz en URSS, qui bénéficiait d'un certain soutien à partir de ces années-là. Et à la fin donc, de la période khrouchtchevienne, il y a les premiers groupes inspirés de Beatles qui commencent à arriver. Voilà. Et à partir des années 60, l'État développe de vastes infrastructures de création amateur donc, qui vont donner un abri institutionnel et un soutien matériel à de nombreux groupes jazz puis rock amateurs. Et sans que en fait ne soit mentionné le label jazz ni le rock d'ailleurs. Le progressisme en fait soviétique consistait aussi à favoriser une création technique chez la jeunesse. Donc les instruments n'étaient pas disponibles en vente, mais on encourageait en fait la construction de diverses sortes d'équipements de sonorisation qui pouvaient aussi servir en fait à amplifier les groupes rock. Voilà. Et donc il n'en reste pas moins que par ailleurs, à la faveur du changement de l'humeur idéologique, la presse pouvait s'acharner de temps à autre contre les cosmopolites qui changent la culture décadente occidentale, où les hippies pouvaient se faire couper les cheveux par les milices du Komsomol, des étudiants se faisaient renvoyer des universités pour le fait de porter des pattes d'éléphant, etc. Mais donc, il y a les va-et-vient entre répression, un laisser-faire relatif et même un encouragement. Voilà. Et il faut prendre en compte donc, cette dynamique contradictoire des politiques vis-à-vis du rock. En fait, on ne peut pas dire qu'il y avait une seule la ligne du parti vis-à-vis du rock. C'était beaucoup plus complexe que ça. Au sein du parti même, il y a différentes structures et différentes prises de position là-dessus. Et aussi, il y a le Komsomol qui pouvait jouer un certain rôle progressiste en fait, vis-à-vis du rock. Et certains membres du Komsomol étaient tout simplement les fans de rock qui étaient intéressés à le promouvoir en fait par tous les moyens légitimes. Voilà. Et si on en revient à ce morceau, il a d'abord été diffusé tout à fait officiellement, notamment dans le téléfilm qui est consacré à ce groupe qui a été très populaire en fait en URSS. Et donc le téléfilm qui est sorti sur la chaîne centrale de télé en 1969. Or, dans les années 70, il y a eu un durcissement très fort des autorités vis-à-vis du rock, car en fait, c'était lié au fait qu'il a été tout simplement reconnu comme un genre important et dangereux, du coup, par son influence éventuelle sur les jeunes. Donc, il fallait désormais limiter sa diffusion et aussi de mettre en place des initiatives de certains festivals officiels ou des clubs, dits les clubs beat, qui permettaient plus de donner des scènes légales à ces musiciens, permettait aussi de mieux les recenser, de les encadrer, de les contrôler. Voilà. Il y a en fait le double dispositif de quelque part de légitimer, mais de donner, afin de mieux contrôler, en fait, de légitimer sous forme très timide et de contrôler. Voilà. Et donc, dans les années 70, le morceau qu'on vient d'écouter, Il était une fois un gars, glisse en fait vers la zone non officielle. Et il est chanté par-ci par-là, sous l'accompagnement de la guitare sèche, dans les cours d'immeubles, mais il n'est plus diffusé dans les médias. Donc, en fait, contrairement à ce que l'on croit souvent, le rock soviétique ne passa pas de l'underground le plus profond vers une existence de plus en plus libre, en culminant pendant la perestroïka par sa légitimation complète. Mais en fait, il subit vraiment des va-et-vient entre divers degrés de restriction, de tolérance et d'encouragement. Voilà.
Et là, c'est il y a aussi la question des vias, l'encouragement par les autorités de former des groupes qui sont appelés donc pompeusement quelque chose comme ensemble vocal et musical en fait.
Ensemble vocaux et instrumentaux, ouais. Ah. Oui, effectivement, le groupe guitare chantante qu'on vient d'écouter, on le labellisait comme étant un groupe, en fait. C'était le label VIA, Vocal Instrumental Ensemble, Ensemble Vocal Instrumental, qui a été appliqué à l'égard de ce type de groupe, de gros groupes de professionnels, en fait, gérés par les bureaux de concert d'État, qui bénéficiaient de tournées entièrement prises en charge, qui étaient salariés d'État, etc. Donc du coup, le ministère de la Culture soviétique a dû leur trouver un nom acceptable qui a l'air très pompeux et ridicule, mais néanmoins c'est sous ce nom-là que en fait les premiers groupes rock même ont été diffusés largement à travers l'URSS et à travers quelques enregistrements de vinyle produit par le monopoliste d'État Melodia, le label qui s'appelait Melodia, qui était le seul à produire légalement les disques en URSS. Voilà. Et même les Beatles ont été appelés VIA, en fait. Le morceau de Beatles qui a été produit sur une compilation de folklore de divers pays du monde, on voit en fait un morceau de Beatles.
C'est intéressant.
Girl,
c'est de la world music, en fait. C'est du musique du monde.
Ça a été sorti par Melodia, je ne sais plus dans quelle année. The Girl était qualifiée comme étant chanté par un VIA anglais, Beatles, et comme étant en fait un morceau de folk anglais. Mmh. Voilà. Bon, après cette petite parenthèse, voilà, il faut quand même revenir à l'esthétique qui était une sorte d'ersatz, de compromis entre le rock genre Beatles et en fait les morceaux folk qui étaient imposés à ces ensembles, beaucoup instrumentaux, dans leur répertoire. Donc ils devaient être très sobres sur scène, le volume sonore, même s'il y avait les guitares amplifiées et il y avait les micros et les chants à plusieurs, néanmoins le volume sonore était réduit et tout effet de distorsion, de fuzz, etc. était banni en fait de cette esthétique VIA.
Ouais. Tout ce qui est effet sonore.
Tout ce qui est un débordement sonore, voilà, c'était impossible. Et en plus, il y avait un pourcentage de morceaux composés par les membres de l'Union des compositeurs de l'URSS, en fait, qui était obligatoire dans leur répertoire. Voilà, mais néanmoins, ça a explosé. Leur popularité, les popularités des guitares chantantes étaient énormes, tout comme d'autres VIA que je ne mentionnerai pas aujourd'hui. Voilà.
Oui. Est-ce qu'on peut parler directement du prochain morceau qu'on va passer, qui est de Saint-Pétersbourg?
Donc voilà, et il y a aussi donc un autre circuit qui se démarque en fait des VIA officielles, qui se veut plus pur, qui est plus rock pur, authentique, et qui se produisent en fait dans les universités, qui deviennent des milieux privilégiés de développement du rock durant sa première décennie. Et donc, beaucoup de groupes jouaient, des copains de faculté montaient un groupe et jouaient lors des soirées dansantes et studentines dans ces universités-là. Et ils faisaient des reprises exactes des derniers succès des groupes anglais, les Beatles, Shocking Blue, Animals, Shadows, Procol Harum, etc. Donc, Vladimir Rekhshan, en fait, dont le groupe Saint-Pétersbourg jouait d'un succès important auprès des jeunes, du début des années 70, se rappellent que leur concert en fait suscitait un énorme intérêt de fans rock à travers toute la ville. Donc en fait, même si ça s'appelait officiellement la soirée estudiantine, les fans de toute la ville se ruaient vers ces concerts-là, et parfois ça produisait même quelques débordements lors des concerts. Les chaises ont été cassées parce que les salles d'une université n'étaient pas forcément adaptées à ce genre de soirée. Bref, donc le public pénétrait par les fenêtres de toilettes pour accéder à ce genre de concert. Et aussi, avant d'écouter ce morceau, le morceau de groupe Saint-Pétersbourg, qui s'appelle aussi Saint-Pétersbourg, il faut quand même mentionner que le russe était à l'époque considéré comme une langue de conformisme. Donc il n'était pas accepté par les rockers, et la plupart, ils chantaient en anglais. Ils considéraient que c'est la langue la plus naturelle pour le rock, et que le russe était inacceptable. Et donc Vladimir Lekshan, c'était un des premiers à avoir dépassé cet interdit parmi les rockers, et tout en restant populaire en fait. Les autres groupes qui ont essayé de chanter en russe ont été hués par les fans carrément, par les gens présents dans la salle, et Saint-Pétersbourg est resté populaire tout en passant définitivement à l'expression russophone. Voilà. Et avant de passer à l'écoute, il faut quand même aussi mentionner que le nom, le fait de s'appeler Saint-Pétersbourg pour l'époque était quand même un signe de non-conformisme, parce que c'est l'ancien nom de la capitale tsariste. À l'époque, la ville s'appelait évidemment Leningrad, et le fait de mentionner le nom de la capitale tsariste pouvait engendrer vraiment des risques pour ce groupe au niveau de l'université, etc. Du Komsomol.
Двери, мой Санкт-Петербург, мой смелый вызов прими. В священной пляске твоих мостов хочу с тобою плыть. Я узнал тебя, ты мой светлый сон. Ты мяж мой ранний зимый год.
On vient d'écouter Saint-Pétersbourg, donc voilà, qui est un peu un des seuls en fait à parler en langue russe, parce que la plupart des vrais en fait, qui est à la fois considéré comme un vrai groupe de rock et qui chante en russe. On peut dire d'autres choses aussi.
Oui, mais ce qui est intéressant justement, c'est que même s'il chante en russe, la voix reste gentille, mélodieuse et assez classique. En fait, il y a un décalage entre l'intro notamment très péchu dans l'esprit des Kings et la voix très douce. Donc on pourrait même penser que c'est parce que au niveau de la langue, la langue russe n'était pas encore tout à fait apprivoisée au niveau du chant. En fait. On voit vraiment les premières expériences du rock chanté en russe. Et là, donc, c'est de là que ça vient, ce décalage, je pense. Voilà. Et ce groupe-là, il est aussi assez représentatif d'une partie du milieu des années 70 qui descend en fait, progressivement dans les circuits de concerts clandestins lucratifs qui étaient organisés dans des salles de fête et des maisons de la culture de banlieue reculée par des managers qui risquaient en fait de la prison, parce qu'il faut dire aussi que l'entrepreneuriat privé était un article du code pénal de l'URSS qui était passible de plusieurs peines de prison. Et donc le fait de vendre les tickets pour les concerts, c'était une infraction en fait à la loi, aux lois soviétiques. Donc les amateurs étaient présumés de jouer toujours gratuitement, et les tickets pour leurs concerts n'existaient pas. En fait, ils pouvaient se vendre en tant que invitation présumée gratuite. Voilà.
Donc là, il y a deux scènes qui se forment. En fait, la scène qui se rapproche du circuit officiel. Et une scène plus underground.
Voilà, donc il y a cette scène underground qui apparaît parce qu'il y a de plus en plus de contraintes imposées par les autorités. Une fois que les autorités, en gros, ont compris la prégnance et l'impact du rock sur les jeunes, il y a de plus en plus de contraintes pour organiser des concerts amplifiés dans les universités et ailleurs. Donc, on peut dire que l'underground n'a pas du tout été idéologique. au départ. C'était vraiment une réaction au changement de politique d'État face au rock. Et d'une part, une autre voie possible pour les groupes rock amateurs consistait à se professionnaliser, et il était possible, si les musiciens avaient une formation musicale et passaient avec succès une audition auprès des bureaux de concerts d'État. Et donc là, ils pouvaient bénéficier entièrement de tournées prises en charge à travers le pays, et ils avaient, eux, le droit à la rémunération légale pour leurs concerts. Et notamment le morceau qu'on va écouter maintenant, il provient d'un groupe qui s'appelle Arsenal. Et il a été fondé par le moscovite Alexei Kozlov, qui est un ancien saxophoniste de jazz, et qui a fondé donc le groupe de Sympho Jazz Rock Arsenal après avoir découvert que certains morceaux de musique rock, par leur complexité et leur raffinement, n'avaient rien à envier au jazz contemporain. Et donc, à travers les concerts de son groupe, organisés tout à fait officiellement à travers le pays, il a pu populariser, sans le mentionner vraiment, l'opéra Jesus Christ Superstar, les groupes Emerson, Lake and Palmer, Chicago, Pink Floyd, King Crimson, etc. Donc voilà. Et c'était une façon de légitimer le rock par le ralliement au jazz, qui bénéficiait déjà d'une certaine reconnaissance, et par le ralliement à la musique symphonique. Classique. Et c'est important de noter en fait qu'à la même époque, quelques années avant, c'est le même chemin qui a été suivi par certains gros groupes de rock qu'on connaît tous, donc Pink Floyd en tête.
Donc voilà, on revient sur l'émission Offensive. Donc là, on vient d'écouter le groupe Arsenal. Et là, on peut se dire que ce n'est pas du tout une musique axée sur les paroles.
En tout cas. Ça, c'est clair. En fait, il n'y a aucun texte. Et il y a clairement un symphonisme qui est un ressort. Et d'ailleurs, quand ce groupe il s'est inscrit auprès du bureau de concert d'État, il n'a pas été enregistré en tant qu'ensemble vocal et instrumental. Donc, via, il a été enregistré en tant qu'orchestre symphonique. Et du coup, il bénéficiait de payes meilleures que les via, en fait. Mmh. C'était une marque de reconnaissance plus classique, plus légitimiste, en fait, qu'on accordait à ce type de musique. Et en fait, du coup, le groupe s'éloignait de ses circuits de jeunes fans de départ, et il se faisait de plus en plus la réputation dans les milieux professionnels de jazz et de musique symphonique. Voilà. Et ce groupe, il est vraiment représentatif d'une des deux modèles de légitimation du rock en URSS, qui était très prégnant dans les années 70, la légitimation par la complexité de la forme musicale. Voilà. Au détriment, justement, de la composante textuelle, de la composante parole. Voilà. Et donc, ça se passait via le ralliement au genre de progressive rock, art rock, sympho rock, qui a été justement dominant tout au long des années 70 en URSS et dans les pays anglo-saxons. Donc, les musiciens qui ont adhéré à ce modèle se lançaient dans une course effrénée et très coûteuse après le vrai son et les vrais instruments rock. Et du coup, souvent, ça les amenait à intégrer la scène professionnelle et à se soumettre à certaines contraintes, justement, imposées par cet univers. Mais à partir de la fin des années 70, un nouveau modèle aussi commence à s'établir petit à petit, contrasté avec le précédent, celui qui cherche la légitimité à travers la parole, ou ce qu'on appelle la poésie rock, tout en simplifiant au maximum la forme musicale. Alors comment on peut expliquer ce changement de modèle ? D'une part, je crois que les rockeurs du cru semblent quelque part essoufflés en fait, par cette course interminable au gros son et à la perfection instrumentale. Par exemple, un des samizdat rock de Leningrad en 79, nommé Roxy, en parle de cette façon. Le texte, voilà, essentiel, avoue que tu n'es pas Robert Fripp ni Jimi Hendrix. De toute façon, tu ne pourras jamais atteindre leur niveau, ni même un niveau juste en dessous. Mais tu peux rendre tes concerts, tes morceaux intéressants. Comment ? Produis du texte. Voilà.
Donc, ça, c'est dans les journaux, en fait. Comment
c'est la, pas, presse, c'est même, la presse samizdat, en fait. Qui...
C'est même pas du fanzina, c'est interdit par l'État, et du coup, c'est.
Oui, mais en fait, ça a commencé à circuler en copie dactylographiée, genre en 5 exemplaires. Donc, le samizdat qui s'appelait Roxy est devenu par la suite le bulletin officiel du rock club de Leningrad, mais je vais y revenir en parlant justement de la nouvelle vague de Leningrad, qui commence à faire sien le modèle de poésie rock. Voilà, et donc le nouveau. Ils prennent en fait carrément le nouveau cap à la simplification musicale et à la poétisation du rock. Et ils se réfèrent en cela aussi à quelques repères nationaux, notamment la chanson de Bard, connue grâce à des artistes comme Vladimir Vysotsky, Bulat Akhodjava, Alexandre Galich, et qui était diffusée via les réseaux de Magnetisdat, donc c'est-à-dire les copies.
Cassettes pirates, enfin copier, chacun copier ses cassettes. Et...
Voilà, d'abord c'était sur les bobines, après c'était sur les cassettes, effectivement, vers la fin des années 80. Et il y avait un réseau très développé à travers tout l'URSS, en fait, de copies. D'abord c'était les chansons de Bard, et puis c'est les rockers aussi qui ont repris ce dispositif de diffusion très efficace, et qui contournait en fait largement les circuits officiels, et qui comblait aussi, même aux artistes officiels, le manque de possibilité de se produire officiellement. Comme je l'ai dit, le monopole d'État à Melodia, elle était surchargée, et en fait c'était très difficile d'accéder même aux artistes très connus à cette production-là officielle.
Je ne sais pas si je m'avance un peu dans ce que tu voulais dire, mais il faut aussi noter la répression par rapport à ça, quoi. On peut aller en prison si on a un magnétophone pas acheté par l'État. Enfin, le trafic de magnétophones et de cassettes sont réprimés par l'État.
C'était tout à fait légal, les magnétophones.
La revente de.
Par contre, les samizdat, la presse, samizdat, effectivement, elle était très réprimée parce que c'était le dispositif déjà employé largement par les dissidents, qui pour le coup s'opposait réellement à l'État soviétique, en fait, qui critiquait véritablement l'État. Et en fait, produire le samizdat rock, c'était quelque part plus dangereux que de produire les enregistrements sur des bobines, bizarrement, parce qu'il n'y avait pas de législation qui permettait de réprimer ce type de copie.
Voilà. D'accord.
Voilà, c'était pas si répressif dans tous azimuts qu'on le croit, en fait. Voilà. Et donc, la raison d'être de la poésie, en fait, si on revient à la poésie rock, la raison d'être de la poésie rock, c'était aussi que de plus en plus de contraintes imposées au rock par les autorités qui persécutaient donc les organisateurs de concerts amplifiés au titre de l'entrepreneur privé, comme j'ai déjà dit. Et donc, quand on concert légaux, et ils étaient de plus en plus difficiles à organiser, les concerts légaux amplifiés, je veux dire. Donc, du coup, dès la fin des années 70, un bon nombre de concerts se sont déplacés dans les appartements. Et donc, c'est l'époque des fameux kvartirniki, donc les concerts faits chez les particuliers dans les appartements. Et donc, du coup, ce qui, dès lors, était important, ce n'est plus un défoulement dansant, mais une communion entre musiciens-chanteurs, qui était devenu une sorte de gourou spirituel, et le cercle étroit et rapproché de leur public. C'est là où on entendait enfin vraiment les paroles, parce que c'était beaucoup plus dépouillé au niveau sonore. Il n'y avait que les guitares acoustiques ou semi-acoustiques, et les mélodies étaient très simples. Parfois, c'était accompagné de flûtes, de bongos, de violoncelle, mais parfois, c'était juste la guitare sèche, en fait, avec le chant, du coup, qui était pour le coup mis au premier plan. Et on entendait les paroles, et les paroles sont devenues importantes. Et donc, en observant en fait les réactions du public à ce genre de concert, en fait, dans les mémoires, dans les samizdats de l'époque, on peut retracer les réactions. On comprend que désormais, dans le rock, on cherche et on trouve du sens. Et donc, cette quête de sens revêt une allure quasi religieuse, en fait. Et cette quête spirituelle s'appuie aussi sur ce qu'on appelle la langue d'Ésope, c'est-à-dire tout ce qui est... les métaphores, les allusions, allégories, les paraboles, les paraphrases, etc. Tout ce qui est en fait le sens caché qu'il s'agit de décoder. En fait, il y a un jeu de codage et de décryptage qui s'établit entre donc, le musicien, enfin, l'auteur, et le lecteur, et qui a pour troisième instance la censure anticipée ou réelle, voilà, qui est prise en compte. Voilà. Et c'est grâce à ce type de jeu de décryptage qui réactualise en fait, les dispositions cultivées très anciennes, en fait, relevant de la lecture d'œuvres littéraires, que cette nouvelle vague de Leningrad se ferait le chemin et devient vraiment populaire dès le début des années 80, notamment le groupe Aquarium, dont le morceau on va maintenant écouter, et qui en fait évolue au sein du Rock Club de Leningrad dès 1981, sous l'égide de la Maison intersyndicale de la création populaire. Donc, ce club en fait, a été créé avec la participation officieuse du KGB de Leningrad, qui visait à pratiquer certaines formes intelligentes et modernes du contrôle sur les milieux artistiques non officiels. En fait. Voilà. Et le chanteur et auteur de textes, qui s'appelle Boris Grebenchikov, il attend en fait, les sommets justement, de ces jeux de décryptage et de décodage.
Ça ne veut pas dire qu'Aquarium était complètement lié à l'État. Enfin, s'il a été lancé par le KGB, en fait...
Non, pas vraiment. En fait, c'est plus complexe que ça, évidemment. Ce milieu leningradois, il a commencé à se cristalliser dès la fin des années 70 déjà. Il se produisait dans les soirées, dans des appartements, dans certaines salles universitaires et ailleurs. Mais en fait, c'était une quête de la part du milieu lui-même de trouver un endroit légal où ils pouvaient se réunir, accéder sur scène, où ils pouvaient mettre l'équipement et le savoir-faire, etc. Et aussi, en fait, donc c'était une sorte de débouché légal, mais qui permettait en fait à la fois
une expression
pas forcément orthodoxe en fait, pas forcément encadrée. Tel qu'on pourrait l'imaginer, parce que justement il y avait une possibilité de fuite à travers la parole et à travers l'imaginaire assez, comment dire, peu contrôlable.
Et puis de pouvoir avoir des paroles assez profondes et pouvoir lire entre les lignes.
Voilà, ça permettait au public de lire entre les lignes et ça permettait aussi de considérer ces groupes comme quand même plus ou moins, en tout cas de loin, à première vue, comme inoffensif, parce qu'il n'y avait pas non plus d'appel direct à protester, il n'y avait pas non plus une critique, c'était plutôt un imaginaire vraiment déterritorialisé, en fait.
Voilà. Donc là, on écoute Aquarium, peut-être présenter la chanson.
Donc voilà, et il y a l'album, un de ces albums, des albums du groupe Aquarium, qui s'appelle le Triangle, qui est produit en 1981 et qui crée une galerie de personnages et une suite d'ambiance surréaliste. Et donc, on va écouter un morceau. Миша de la ville des statues grinçantes. Миша из города скрипящих статуй.
закрою дверь, бесстрашный как пес, мастер мух, собеседник стрекоз, увенчанный крапивой и листьями роз. Миша из города скрипящих статуй, Миша из города скрипящих статуй, Миша из города скрипящих статуй, Миша из города скрипящих статуй. С полночными зубами, славный как слон, царапающий лбом скрижали времен. Стоять столбом — это движется он. Миша из города скрипящих статуй, Миша из города скрипящих статуй, Миша из города скрипящих статуй, Миша из города скрипящих статуй.